Daniel Dezeuse, vous exposez à la VRAC de Millau jusqu'au 16 octobre prochain une installation intitulée « Été pour un bel été ». Est-ce que vous pouvez nous donner une description de cette installation ?
Oui, c'est une exposition très accessible parce que finalement tout est dans le titre. Elle va durer tout l'été, même plus, presque elle mord sur l'automne. Et elle est essentiellement composée d'été, c'est-à-dire ces supports qui soutiennent les arches ou les balcons qui sont affaiblis par le temps. Voilà, donc il y a aussi, je veux mentionner aussi qu'il y a des serre-joints de maçonnerie dans cette exposition, et ces serre-joints, comme tout le monde le sait, servent à faire des coffrages dans les bâtiments. C'est dans un certain sens un hommage aux constructeurs. Voilà, aux constructeurs de tous les jours, non pas les constructeurs de viaduc, qu'ils soient de Millau ou de Garabit, mais aux constructeurs tels qu'on les rencontre dans les villes avec leurs outils de base.
Dans ce que vous venez d'exprimer, et puis dans l'installation, il y a l'idée du matériau pauvre, mais on y reviendra sans doute dans le courant de la conversation. Je voudrais savoir si vous considérez, vous, que cette installation est représentative de votre travail d'une manière générale, et si oui, en quoi ?
Dans une certaine mesure, oui, c'est représentatif, parce que j'ai travaillé sur des questions de force, de tension, avec des poulies de marine. J'étais très intéressé aussi par l'outillage. J'ai fait des objets que j'ai appelés objets de cueillette, ou dans certains cas des réceptacles. Ce qui m'intéresse, c'est cette relation manuelle et ces rapports où la force humaine ne suffit plus et se fait aider par des outils, qui soient des petits outils manuels ou des outils plus forts comme les étais ou les poulies, les moufles de marine.
Vous avez été un des fondateurs du mouvement Support Surface. Parmi vos premières œuvres, il y en a une qui a marqué, qui s'intitulait « Châssis avec feuilles de plastique », qui date de 1967. Et avant ça, vous avez voyagé en Amérique, je crois Mexique, États-Unis, Canada. Je voulais savoir en quoi ce voyage a été pour vous formateur dans votre expression artistique.
Eh bien, ces voyages, ces séjours aussi assez longs. Je me suis intéressé surtout au Mexique, à tout ce qui concernait le monde indigène, c'est-à-dire à la fois le monde précolombien et à la fois ce que font les indigènes actuellement. Et surtout... leurs travaux en sculpture, en céramique. Ça, c'était, lors de mon séjour mexicain, une chose importante. Il y a un musée extraordinaire d'anthropologie et d'archéologie, qui est un des plus beaux du monde. J'ai assisté à son ouverture en 1965, et je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Du côté de l'Amérique du Nord, alors vraiment l'Amérique des États-Unis et du Canada, c'est autre chose. Je me suis intéressé aussi aux indigènes, à ce qu'on appelle les peuples premiers, mais ils sont beaucoup moins présents qu'au Mexique. Et là, c'était autre chose. J'allais à New York pour voir les expositions, pour visiter les galeries. J'étais dans un monde extrêmement urbain Et c'était quand même l'art américain qui m'intéressait.
Quoi en particulier dans l'art américain ?
Eh ben, dans l'art américain, j'ai beaucoup aimé l'école de New York, c'est-à-dire ce qui part de Pollock avec l'abstraction gestuelle, mais aussi un art plus géométrique, plus rigoureux, représenté par Newman ou Rothko, dans un certain sens, qui emploie la notion de série, de répétition, et qui se passe évidemment dans la peinture. Il y avait aussi une sculpture assez forte, qui était les structures primaires, et ensuite la sculpture minimaliste, qui était des choses, à l'époque où j'étais à New York, à Toronto, qui étaient des choses nouvelles, et qui m'ont marqué, parce que cohabitaient finalement deux courants esthétiques, c'était le pop art et le minimalisme. Et finalement, j'ai été beaucoup plus sensible au minimalisme qu'au pop art.
Je le disais tout à l'heure, vous avez été un des fondateurs du mouvement Support Surface, que vous avez animé un certain temps, et puis vous vous en êtes écarté à un moment donné. Malgré tout, il y a des choses qui venaient de là, qui sont restées dans votre travail. Est-ce que le fait de s'écarter à un moment donné, mais je crois que ça a été le cas de la plupart des protagonistes du mouvement, est-ce que c'était se dire, bon, voilà, ça existait à un moment donné à une période, et puis après, on va vers autre chose, où c'était quelque chose de plus réactif, le fait de s'éloigner de ce mouvement.
Ce mouvement a été très fort à la base. Là, vous parliez de ce châssis qu'on peut voir au Centre Pompidou, avec ce plastique tendu. Déjà, je me posais le problème d'une certaine force, qui est la tension de la toile sur un châssis. C'est un problème basique pour un peintre, pour un artiste. Déjà, tendre une toile sur un châssis, c'est déjà un acte basique, de fondateur, presque. Alors j'ai travaillé un tout petit peu sur cette question-là. Ça a été repris maintes fois, par d'autres, par moi-même. Et ce mouvement a amené d'autres choses, surtout en termes de couleurs. Hein, il y a eu un très grand accent posé sur le chromatisme. Moi, je penchais plutôt sur les problèmes de dessin, de lignes, beaucoup plus que sur des problèmes de couleurs. Mais bon, c'était la variété du groupe. Le groupe ensuite a éclaté pour diverses raisons. Mais je crois que chacun avait déjà puisé pas mal d'éléments. Donc chacun est parti de son côté et a formé une constellation au-dessus de nos têtes, pour ainsi dire. Et les trajectoires des comètes sont à suivre avec une longue vue. Hein. Moi, je ne les suis pas toutes. Hein. Il faut un télescope très puissant.
Dans votre catalogue, j'ai l'impression qu'il y a une organisation forte qui se fait presque par décennies. Mais peut-être vous contredirez ça, je ne sais pas. Dans les années 70, on trouve les extensibles et les échelles de bois souple. Dans les années 80, ce sont les armes de poing et de jet qui a été aussi un moment important. Dans les années 90, vous en avez parlé tout à l'heure, les objets de cueillette et de réceptacle. Et à partir du milieu des années 90, c'est aussi le moment des grandes commandes publiques. Oui. Voilà, est-ce que... Bon, et puis après, par-dessus tout ça, évidemment, il y a tous les autres travaux de sculpture, de peinture, de dessin.
Vous savez, quand on travaille, on ne sait pas très bien où on va. Hein. Et puis après, quand on se retourne et qu'on voit ce qu'on a fait, on a tendance un peu à le classer par année ou par famille. Alors donc c'est vrai que je me suis intéressé, après des questions très picturales, je me suis intéressé au problème de la troisième dimension et par là même de l'objet. Et c'est là où j'ai fait des armes, des objets de cueillette, des réceptacles. J'ai un besoin tactile de créer avec une troisième dimension très très présente et très accessible manuellement. C'est-à-dire, c'est le travail de la main qui est très fort. Je veux dire, même certains objets, je les ai faits dans une sorte d'euphorie, non pas de l'esprit ou du cœur, mais de la main. J'ai laissé fonctionner ma main toute seule, et c'est elle qui me commandait. C'est une expérience étrange. Et je l'ai donc éprouvé avec tout ce qui est les trois dimensions des objets.
Alors vous avez parlé à deux reprises de tension depuis le début de cet entretien. Moi j'ai l'impression qu'il y a un diptyque qui fonctionne souvent, enfin en corrélation, qui est celui de la ligne et de l'énergie. Vous parliez de trois dimensions, mais finalement, les trois dimensions, elles ont, depuis le début, elles sont présentes dans votre travail.
Oui, alors, c'est, en ce qui concerne l'énergie, c'est là, c'est plutôt, c'est très tangible dans tous les dessins. Les dessins sont des lignes d'énergie, et c'est immédiatement lisible. Avec la sculpture ou les objets tridimensionnels, c'est moins lisible pour celui qui agit que le dessin. Moi, je suis un dessinateur abondant et la page blanche, le grand papier blanc appelle mon énergie, demande à ce que je trace un trait qui sépare les blancs entre eux. Ensuite, évidemment, j'ai recours à des couleurs. Mais dans un premier temps, c'est des lignes énergétiques faites par la main, le bras. Hein, ce n'est pas uniquement la main, là, c'est tout le bras qui travaille. Et je crois que là, on peut parler, en effet, d'une énergie lisible pour le spectateur.
Si je vous posais cette question de la représentativité concernant l'installation à la VRAC, Daniel Dezeuse, c'est aussi parce que, en fait, dans l'ensemble de votre travail, il y a un côté, vous avez parlé de la couleur est présente aussi, et il y a des choses qui, esthétiquement, sont très marquantes, et qui, moi, me paraissait un petit peu en décalage avec ce que vous nous montrez aujourd'hui.
Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a des problèmes d'énergie, il y a des problèmes de masse, mais tout ça, c'est dans une vision de représentation, puisque ce n'est pas réel, puisque ces étés que je montre ne sont pas effectifs. Ils ne soutiennent rien, hein, mais je donne l'impression, l'illusion, qu'ils soutiennent des masses, des linteaux qui peuvent glisser, des sols qui retiennent avec des madriers. Donc il y a quand même cette idée il y a des tensions, il y a des forces. Évidemment, tout est illusion, comme la peinture. Nous sommes dans le monde de l'illusion. Il faut comprendre ça, parce que c'est un paradoxe, cette exposition, parce que la plupart des gens pensent que ces madriers et ces étés sont des vrais, qui servent énormément à soutenir la galerie de la VRAC qui est en train de s'effondrer. C'est absolument faux, ils ne retiennent rien. C'est une illusion que je me permets en tant qu'artiste, hein, voilà. Par exemple, quand j'ai travaillé avec des poulies et des cordes de bateau, c'était aussi ça, il y avait une tension qui s'effectuait entre trois poulies énormes et qu'il fallait retendre tous les jours d'ailleurs, je suis un peu dans la même situation, ici à la Vrac.
Il y a aussi dans cette installation quelque chose qui nous renvoie à la perspective, au point de fuite, à la ligne d'horizon, etc. Là on est dans le trait, non pas dans les têtes, dans le trait.
Le trait vertical pour tracer des colonnes est un trait primordial, parce que quand il s'agit de construire une maison, un temple, quelque chose comme ça, on crée un trait vertical qui est le mât qui soutient la tente, le toit ou le toit du temple. Donc c'est une chose aussi basique, élémentaire, que je défends. Je reviens à ça un tout petit peu. Mais évidemment, ce sont des. J'ai emprunté les outils, l'outillage des gens qui travaillent dans le bâtiment. Je n'ai pas construit vraiment une colonne. Alors là, il y a une place, je pense qu'elle s'appelle la place des colonnes, qui m'a beaucoup intéressé, parce que je suis venu avec le projet dans la tête et sur des plans, et je suis arrivé place des colonnes en venant ici. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait énormément d'étés, des étés extrêmement solides, industriels. Moi, à côté, je n'étais qu'un petit artisan. Je me suis dit, mais c'est fantastique, on est dans une suite logique. Il y a la place des colonnes avec les étés, les colonnes elles-mêmes qui ont besoin d'être ceinturées par des cercles de fer. Il y avait ce phénomène de pression, de contention, ici j'ai fait la même chose, bien sûr à mon échelle, à ma pauvre échelle, hein, voilà.
Oui, il s'agit de la place Foch à Millau, qui est effectivement une place qui a des couverts sous colonnes, oui. Avec des constructions sur colonnades ou en encorbellement, et dont certaines sont un petit peu en souffrance. Donc c'est aussi une manière de faire l'apologie du périssable.
Oui, c'est pas exactement l'apologie, c'est l'apologie de ce que l'homme peut faire pour restaurer et soutenir le monde qui peut à certains moments s'effondrer. Où on peut avoir le sentiment que le monde s'effondre de temps en temps. Les Gaulois pensaient que le ciel allait tomber sur leur tête. C'est un sentiment partagé par beaucoup de populations. Et là, je dis, mais non, écoutez, on peut soutenir, on peut restaurer, on peut refaire. Il n'est pas besoin de détruire pour reconstruire. Il suffit de regarder l'ancien et de le maintenir avec volonté.
Oh, I can't get over this moon. And all creatures under the sun move through their days in a state of oblivion.
Dans vos séries de peintures, il y en a que vous qualifiez de furtives ou qui perlent. Il y a également des choses inachevées, je pense aux clés inachevées. Quand même, ça nous renvoie à une certaine fragilité.
Oui, c'est vrai. Une part de ce que j'ai pu faire est fragile, est soumis à certaines conditions d'exposition. Ça, c'est quand j'étais plus jeune. Et je me suis aperçu que, quand même, il fallait faire des choses plus solides de temps en temps. Des installations... qui avec des matériaux métalliques du bois, des choses consistantes. Mais il y a quand même un fond de fragilité. Un dessin, c'est une feuille de papier avec une inscription. C'est quand même quelque chose de très fragile. fragile à la lumière aussi. Donc oui, il y a un côté fragile. J'ai utilisé des matériaux qui me semblaient solides, et qui ont mal vieilli et qui sont devenus fragiles. C'est vrai, on ne peut pas tout prévoir quand on utilise des matériaux nouveaux comme le polyéthylène. On ne peut pas tout prévoir. Et ça, c'est un grand problème de l'expérimentation dans le monde de l'art. C'est que des matériaux viennent souvent au devant de la scène et on ne connaît pas exactement la longueur de leur vie.
À un moment donné, l'enseignement est entré dans votre existence. Vous n'aviez pas vraiment besoin d'enseigner. Pourquoi l'avoir fait ?
Je crois que j'ai toujours un peu enseigné, à certains moments beaucoup, à des moments beaucoup moins. Quand j'étais au Mexique, je donnais des leçons de français chez les particuliers. Ça, c'était pour survivre. Hein. Mais quand même, je pense que l'enseignement m'a permis de survivre économiquement, surtout quand on a une famille, même petite. Le problème de l'enseignement, c'est qu'on ne se voit pas vieillir. On est toujours avec des jeunes, hein, et chaque fois, il y a une fournée nouvelle qui arrive, donc on ne voit plus le temps passer, on n'a plus... Et c'est là où c'est là la fragilité de l'esprit, hein, c'est qu'il n'arrive plus à évaluer le temps.
On ne l'a pas dit, mais vous avez une solide formation littéraire. Vous avez parlé d'enseignement au Mexique, mais bon, c'était peut-être en dehors de ça. Comment est-ce que cette formation a pu percoler dans votre travail ou pas ?
Oui, j'ai étudié à l'université, j'ai étudié à la Sorbonne, j'ai enseigné à l'Université de Toronto, au Canada. J'ai enseigné dans une alliance française tout à fait quand j'avais 20 ans. Je ne sais pas, peut-être on pourrait dire oui, c'est littéraire, c'est un esprit littéraire, mais j'en suis très heureux parce que j'écris. Alors ce que j'écris, je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne me prétends pas écrivain ni poète, mais c'est un besoin, c'est une compulsion, une impulsion. Je pense que beaucoup d'artistes ont écrit. Hein. Je prends par exemple Delacroix, il a écrit un journal très consistant, mais il y en a beaucoup qui ont autre que le journal d'atelier, on écrit même des romans. Hein. Moi, ce qui concerne, ce sont souvent des notes de voyage, assez réduites, mais il y en a pas mal. C'est une façon de changer un peu le fusil d'épaule, de sortir de son atelier. Oui, c'était une époque où, celle de Support Surface, où on écrivait facilement des textes théoriques. On pensait qu'on pouvait recréer certaines choses à partir de très peu. Il fallait des béquilles pour avancer le travail pictural, d'autant plus que la critique d'art ne voulait absolument pas parler de nous. Donc il fallait prendre en main nos propres armes critiques et attaquer les critiques qui ne parlaient pas de nous. Ça, c'était la première chose à faire. ça a été très polémique, hein. C'est souvent. Voilà, et amusant, souvent, parce qu'il y avait un establishment qui était facilement ridicule. Stars don't know you anything. Don't give a damn about your nations.
feel the slightest obligation. I mean, listen, what if the world goes spinning off its axis?
Daniel Dezeuse, aujourd'hui votre travail est présenté dans différents musées, dans l'espace public, on l'a dit, à travers les différentes commandes que vous avez reçues. Vous êtes représenté par la Galerie Templon aussi à Paris, voilà, qui est une grande galerie. Quels sont vos projets ?
Mes projets, c'est très difficile à dire, parce que je suis né en 1942, il arrive un moment où les projets, ce n'est pas des projets à long terme. Il faut être modeste dans ce métier. Mes projets immédiats, c'est exposer, là je prépare quelque chose avec d'autres artistes pour Palerme, pour la ville de Palerme en Sicile. Et puis, voir un tout petit peu, essayer de varier les lieux d'exposition, ne pas être uniquement lié au marché de l'art ou à un marchand d'art. Je veux la liberté, en fait. Hein, voilà, je veux la liberté de manœuvrer comme je veux, d'exposer là où je veux. De faire des choses hors marché même, où je trouve beaucoup de liberté. Par exemple, la VRAC, pour moi, c'est une façon d'être libre. Hein. Je n'ai pas de problème de vente, puisque c'est une installation et que, en fait, comme les installations ne sont pas monnayables, comme on dit, comme un tableau. C'est une installation, ça existe comme ça, et on ne peut pas revendiquer quoi que ce soit en dehors de son existence.
Dernière question, à des personnes qui découvriraient votre travail à travers l'exposition à la VRAC, quelle autre chose vous auriez envie de leur indiquer? Peut-être dans une proximité ou pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pourriez avoir envie de dire? Allez voir ça de mon travail.
Oui, c'est, je vais dire que c'est une exposition paradoxale. C'est-à-dire, on peut penser qu'il s'agit vraiment de colonnes qui soutiennent, comme les Atlantes, les monuments, en l'occurrence le beffroi. Mais c'est une illusion, c'est lié à l'illusion de l'art. C'est de l'art. Hein, c'est pour ça que je ne suis pas dans le monde de la manufacture ou de l'artisanat. Je suis dans un autre monde qui est celui de l'illusion et du paradoxe. Et j'avoue que pour le public, c'est assez difficile de saisir ce paradoxe.
Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question d'aller voir autre chose de votre travail. À quelqu'un qui découvrirait ça à travers l'installation de la VRAC. J'ai bien entendu ce que vous aviez à nous dire à propos de cette installation, de la question de l'illusion. L'art, ça a toujours quelque chose à voir avec l'illusion, avec le chaos, avec le désordre.
Oui, je ne sais pas comment orienter le spectateur qui voudrait en savoir plus. Ça il y a évidemment des catalogues, il y a des œuvres comme des pavements, il y a une sculpture dans le jardin des Tuileries, mais je pense que c'est un peu difficile à suivre, parce que je suis quelqu'un qui change souvent d'orientation. Je peux aller du plan à la troisième dimension, je peux aller de choses monumentales à des choses extrêmement réduites qui peuvent se tenir dans la main. Cela dépend des moments, des périodes, et c'est vrai que le spectateur doit faire un effort que j'ose pas lui demander, parce que je reste modeste dans mon travail et je ne vais pas. Je travaille pas pour un public. Je travaille pour suivre ce que je crois.
C'était Daniel Dezeuse à propos de son installation « Été pour un bel été » visible à la Vrac de Millau jusqu'au 16 octobre 2022.
Wrapped in darkness, you take my hand through all the chambers of the underland. Like this penny on the railroad track. If you go too far, you know you can't go back. Well, I've never been here before. Inside a molten core, no need for clothes or for eyes to see. Surround yourself a pair of ears. Gonna be down here for many years. Just listen out for that subterranean river of tears. Well, not exactly hell, more like a nocturnal paradise. Not exactly heaven either, I'd say about half as nice. Well, at the end now, you run aground and all the sine waves gone underground. There's a threshold between the here and hereafter. It's across a river, you know you gotta take a raft there. Stars don't owe you anything. Don't give a damn about your nation. Feel the slightest obligation.